Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans votre émission, le tour complet de l'économie dans un monde où l'on va beaucoup parler ces prochains mois du secteur bancaire. Il y a quelques jours, les propos de Jérôme Powell, le patron de la Fed, la banque centrale américaine, préoccupé par le niveau de l'inflation.
Inflation is much too high and we understand the hardship it is causing. And we're moving expeditiously to bring it back down.
Aux États-Unis, comme ailleurs, les taux d'intérêt à la hausse, décision des banques centrales après de nombreuses années où ces taux sont restés exceptionnellement bas, parfois même négatifs. Les banques centrales réagissent à l'urgence, inflation, les ménages et les entreprises sur tous les continents se demandent comment ils vont payer leurs factures et comment ils vont pouvoir emprunter pour investir, bien sûr, dans un monde qui va de plus en plus vite. Et cela tombe bien, notre grand invité de l'économie est un banquier de grande importance. Bonjour Alain de Conchou.
Bonjour.
Merci d'être venu à nous dans les studios de RFI. Vous présidez le conseil d'administration d'EcoBank, établissement présent dans la plupart des pays africains. Nous allons parler ensemble et pendant trois quarts d'heure de tous les sujets qui font l'actualité dans votre secteur stratégique, on l'a dit, l'actualité de votre groupe, évidemment, mais aussi des thématiques plus larges concernant l'économie mondiale. Beaucoup de questions à vous poser en compagnie de Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
D'abord, et comme d'habitude, quelques mots sur le parcours de notre invité.
Alain Conchou, vous avez été nommé en 2020 à la tête du conseil d'administration du groupe panafricain EcoBank. EcoBank, c'est une présence dans 33 pays, plus de 20 000 salariés, un revenu net de 1,8 milliard de dollars en 2021 et un bénéfice avant impôt de 478 millions de dollars. Vous vous présentez comme la première banque panafricaine, première filiale ouverte au Togo il y a 37 ans. La maison mère y est toujours basée. Vous, Alain Conchou, vous êtes né il y a 59 ans à Yaoundé au Cameroun. Vous avez fait vos études supérieures en France, à Supélec, qui forme des ingénieurs, puis à l'École supérieure de commerce de Paris. Vous faites la première partie de votre carrière en Europe, notamment à Londres, au sein de JP Morgan et de Crédit Suisse, Londres où vous résidez toujours. Et en 2008, vous créez Enco Capital, une société d'investissement consacrée à l'Afrique. Avec les fonds confiés par des institutions et des fonds de pension, vous investissez sur les marchés d'actions, vous entrez au capital des entreprises, vous financez leurs dettes en même temps que vous investissez dans la dette des États. Vous gérez aujourd'hui plus de 900 millions de dollars d'actifs. Alain Conchou, vous réussissiez très bien en Europe et vous avez créé Enco Capital pour travailler sur l'Afrique. Qu'est-ce qui vous a poussé à opérer ce retour ? Le Cameroun vous manquait ?
Disons que l'Afrique me manquait d'une certaine manière. Après une longue expérience investissant dans les marchés internationaux, l'appel de l'Afrique, justement, s'annonçait tout simplement parce qu'on, quelque part, il y avait déjà l'opportunité de la demande et puis, justement, l'expertise qu'on avait qui pourrait être utile, justement, au continent. Bon, ça, ça vient aussi avec le fait que mon partenaire, qui est mon frère, était déjà opérateur, justement, sur place. Donc, c'était, justement, une façon de revenir vers les origines.
Vous allez souvent au Cameroun, vous y avez une maison ? Vous y avez de la famille, vous
avez oui, bien sûr, bien entendu. Je suis camerounais, j'ai une maison, j'ai des activités économiques aussi au Cameroun, notamment dans l'agriculture. Mais bon, et je voyage beaucoup en Afrique par justement les fonctions que j'occupe à la fois dans le fonds et aussi un peu pour EcoBank.
Eh bien, on va en parler abondamment. Alain de Conchou, président du conseil d'administration d'EcoBank et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Je salue nos auditeurs fidèles et les abonnés de notre compte RFI Eco sur Facebook et sur Twitter. Vous pourrez y retrouver cette émission, la partager, la commenter. Et il y a une nouveauté, cet entretien, vous pourrez l'entendre et le regarder en vidéo et en intégralité sur la chaîne YouTube de RFI. Vous êtes les bienvenus. Partons d'un exemple concret, Alain de Conchou, lié aux grandes problématiques du moment en Afrique, le prix des denrées alimentaires, la souveraineté alimentaire, le développement d'une autre agriculture sous la menace du changement climatique. La sécheresse sévit, on le sait, sur une bonne partie du continent. Je voudrais vous faire réagir à un court témoignage recueilli par notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto, pendant la COP15 sur la désertification. Morissette Bly est à la tête d'une coopérative d'une centaine de femmes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce dont elle a besoin, là, maintenant, c'est de financement pour ses projets innovants.
Le système d'irrigation, il est cher. Le système de hors-sol aussi, il est cher parce qu'il faut pouvoir trouver encore un matériel adéquat pour pouvoir mettre ce système en place. Donc c'est des montants élevés. Le système d'irrigation d'un hectare déjà fait 14 millions. Donc vous comptez, quand on multiplie 14 millions par 500 hectares, ce n'est pas du jeu.
Ce n'est pas du jeu, Alain de Conchou. Ça coûte cher, les projets agricoles. C'est un appel urgent pour les banques comme la vôtre.
Écoutez, je partage tout à fait cette problématique, notamment justement les propos de la dame en question. La réalité par rapport à la situation africaine est tout simplement que la part de crédit allouée au secteur privé est absolument faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la dette qui est octroyée au secteur privé en Afrique, en gros, est d'environ 38% du PIB global. Quoi. Pour vous donner une indication aux États-Unis, c'est 215 et 140, n'est-ce pas, en Europe. Donc, on a beaucoup de marge. Et c'est essentiellement dû à deux situations, ou peut-être trois. C'est-à-dire que, un, bon, les banques devraient faire un peu plus qu'elles ne font aujourd'hui, clairement, parce qu'en tant que banque, elles devraient être capables de pouvoir justement ce capital permanent dont l'économie a besoin. Mais pour ce faire aussi, il faudrait aussi qu'elles aient une perception et un appétit à ce risque qui soit adéquat, n'est-ce pas, aux capitaux qu'elles ont utilisés. Donc, il est à peu près sûr, certain et peut-être aussi utile que les États puissent pousser les banques à prendre un peu plus de risques sur les économies en question.
Mais donc, responsabilité partagée.
Partagée dans le sens où... Les banques et les États. Dans le sens où si les États devraient le faire, et elles ont plein de moyens, les banques centrales peuvent justement avoir des méthodes incitatives par rapport aux réserves. D'un autre côté, les banques diront, nous, on a besoin peut-être d'un cadre légal et institutionnel qui nous permette aussi de pouvoir prendre les... Mais dans tous les cas, les deux parties ont intérêt justement à trouver un environnement dans lequel les banques peuvent prendre un peu plus de risques justement sur les écoles, sur leur économie.
Julien Clémenceau.
Spécifiquement sur le secteur agricole, aujourd'hui, oui. les banques ne répondent pas aux besoins des agriculteurs africains?
Je ne pourrais pas vous répondre en absolu non, mais il est à peu près clair que compte tenu des statistiques que je viens d'évoquer, le taux de prêt, n'est-ce pas, dans le secteur privé en Afrique est relativement faible. Ça c'est d'autant plus que nos investissements sont d'un besoin assez fort, je veux dire. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de l'Afrique. Quand on a un revenu moyen par habitant de 1 500 $ et une population relativement jeune, bon, c'est des investissements lourds qu'il faudrait. Et puis, l'agriculture pris en lui-même, ce n'est pas tout, en fait. Ce qui est aussi important, c'est toute l'infrastructure qui va avec, d'accord? Les routes, les ports, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est des investissements relativement lourds pour lesquels l'État devrait être aussi un acteur. Il est un acteur, il devrait l'être de toutes les façons. Et ça, c'est beaucoup d'argent, en fait, hein, de manière générale. Ouais.
Il faut aussi, pour les banques, articuler le respect de l'environnement et la production. Comment on réagit par rapport aux projets d'agrobusiness qui sont souvent des projets très impactants pour l'environnement, mais en même temps essentiels pour une population grandissante,
surtout en cette période?
Je pense qu'aujourd'hui, on en arrive à des métriques qui sont relativement acceptables, qui se concernent
donc
justement
des métriques,
de protection de l'environnement, de type justement de projets à financer et aussi de mesures d'impact. Ça fait partie justement de tous les éléments qui rentrent en compte dans l'obtention de crédit.
Donc les banques aujourd'hui sont absolument conscientes de leur devoir et du fait d'objectiver l'impact environnemental.
Ça, je le stoppe tout à fait.
Et mettre des produits financiers favorables à l'environnement, des obligations vertes?
Il y en a qui ont émis des obligations vertes, nous, entre autres.
Voilà. Mais il faut aller plus vite, plus loin
Il faut aller plus loin, mais surtout, ce dont on a besoin, c'est du capital aussi. Quoi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde la situation dans laquelle on se retrouve, notamment avec, bon, on va peut-être y en arriver, avec justement la situation de la crise, justement, après avec la guerre en Europe et les prix
On va y venir.
Évidemment, on va en venir. Donc, il y a évidemment un besoin, une urgence d'avoir une certaine forme, justement, de peut-être pas d'indépendance, mais au moins, justement, une certaine forme d'autonomie alimentaire, n'est-ce pas? Ça devient assez pressant, oui.
Alors, vous y participez au Cameroun parce qu'en plus de vos activités de banquier, vous êtes investi dans un projet agricole où vous produisez de l'huile de palme, mais aussi du cacao. Quelle est votre motivation? On est très, très loin de la finance, très loin du secteur financier, de Londres, de la City.
C'est vrai. Bon, disons que c'est un peu le fruit du hasard. Ayant eu une résidence dans un endroit un peu reculé du pays, je me suis pris d'amitié avec les villageois et avec eux, justement, ils m'ont amené à monter ce projet que j'ai pu faire avec des amis. Et bon, aujourd'hui, on en est là où on est. Donc, bon,
Qu'est-ce que vous faites dans ce projet?
On a environ 900 hectares de cacao, 1300 hectares d'huile de palme, du plantain. Plus, on emploie 650 personnes, donc 280 logements, 80 km de route, des écoles, des hôpitaux. En fait, ce genre d'activité vous met tout à fait au cœur, n'est-ce pas, de la dynamique, justement, économique.
C'est ça, le financier que vous êtes. Ouais. Eh bien, il voit le concret des chiffres.
Ah, ça oui.
Il voit les réalisations.
Et ça vous donne un peu d'humilité quand même. Et puis aussi pas mal d'encouragement, parce que vous voyez justement l'effet multiplicateur de façon immédiate. Bon, autant dire qu'on ne gagne pas d'argent, mais à la limite, ce qui est plaisant aujourd'hui, c'est l'effet de ruissellement, le fait de pouvoir avoir des gens qui aujourd'hui peuvent pouvoir se projeter, n'est-ce pas, savoir qu'ils ont des enfants qui vont naître, on en a 140 enfants quand même dans le coin, et qui peuvent aller à l'école, peut-être soigner. Ça, c'est quelque chose qui clairement a une valeur qui est perceptible.
On parlera tout à l'heure aussi de santé et d'éducation. Ouais. On en est venu à parler du prix des denrées alimentaires, de cette question de l'inflation qui inquiète les économistes, les gouvernements et forcément aussi le secteur financier, puisque le pouvoir d'achat des ménages est erroné. L'année dernière, c'était surtout lié au redémarrage de l'activité après le Covid. Cette année, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez que cette menace est partie pour durer ?
Évidemment, c'est la question du moment aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, la poussée d'inflation que l'on a de manière globale est une résultante de plusieurs facteurs. La première étant, effectivement, cette longue période des 40 dernières années un peu déflationniste que l'on a connue avec une expansion monétaire qui était assez croissante, qui finit justement avec la crise de Covid où on a eu justement une expansion fiscale et monétaire, n'est-ce pas, simultanée dans les pays riches, où un pays comme les États-Unis a carrément pu dépenser 5 trillions, qui est 25% du PIB, pour justement soutenir le pays durant cette crise. Donc, on en arrivait à un endroit vraiment où les taux d'intérêt étaient très bas, des taux d'intérêt réels négatifs, et des poussées inflationnistes du fait que les économies étant fermées ont repris tout d'un coup, donc une demande assez importante un peu de partout, hein, donc des produits intrants, n'est-ce pas, pour le manufacture, les transports, tout ça qui reprennent.
Mais là, on est passé à une étape supérieure, y compris dans les pays moins développés.
Absolument. Donc, ce qui se passe avec ça, donc on commence à avoir une poussée inflationniste. Une poussée inflationniste veut dire une réponse monétaire, qui veut dire des taux d'intérêt qui montent au centre, donc dans les pays riches, mais qui, de par cela, justement, remet en comparaison, n'est-ce pas, le niveau de taux d'intérêt, donc le prix de l'argent que l'on a dans les pays pauvres. Donc la première chose, c'est déjà un extrait de capitaux, n'est-ce pas, des pays africains, notamment des pays pauvres, qui revient justement vers le centre, donc une rareté, n'est-ce pas, du dollar, hein, tout simplement, et aussi un renchérissement du coût de la dette de ces pays. Bon, maintenant, à cela s'ajoute la crise due à la guerre, justement, entre l'Ukraine et la Russie, qui, quelque part, n'est-ce pas, renchérit le prix de certaines matières premières, dont les Africains, n'est-ce pas, sont grands consommateurs, entre autres, de la farine, des huiles et certains entrants, justement, agricoles. Donc, on parle de 30% de hausse tout d'un coup. Et cela, pour des pays dont, justement, le panier, n'est-ce pas, de consommation est essentiellement pratiquement à 50% justement lié à l'alimentaire, quoi. Donc, vous avez une poussée des prix en Afrique aujourd'hui qui est visible, d'environ 12%, n'est-ce pas, sur la zone subsaharienne africaine, ou même 6,6, n'est-ce pas, dans la zone CFA, qui demande une réponse monétaire. Mais une réponse monétaire calibrée, dans le sens où ce n'est pas en montant des taux d'intérêt que vous allez justement faire baisser justement le prix alimentaire, mais seulement puisqu'il y a une pression justement fiscale et une pression justement aussi budgétaire due à l'impact que ça peut avoir sur la balance des paiements, il vous faut quand même essayer justement d'amortir le choc que cela peut avoir sur la monnaie. Donc la hausse des taux d'intérêt, c'est une façon justement de pouvoir se prémunir d'un deuxième tour, donc un effet ruissellement de cette inflation, mais aussi justement permettre de remonter les taux pour pouvoir ralentir, n'est-ce pas, la pression que ça peut avoir sur la monnaie, les monnaies locales. Mais il est indéniable que cette pression...
Donc il n'y a que la montée des taux pour limiter cette poussée inflationniste?
En fait, sur l'immédiat, malheureusement, oui, d'une certaine façon.
Donc c'est quoi, un ralentissement de l'économie derrière?
C'est un peu ce qui se passe, d'où justement la thématique de stagflation dont on parle. Bon, de façon immédiate, c'est l'exemple. Bon, maintenant, il faut aussi être clair, d'accord? C'est qu'une hausse des prix alimentaires, n'est-ce pas, peut avoir des conséquences sociales assez importantes. D'accord, on l'a vu avec le printemps arabe et partout dans le monde. Donc, ce qui veut dire que d'une réponse, n'est-ce pas, gouvernemental ou d'un point de vue institutionnel, il va falloir avoir une réponse relativement calibrée, dans laquelle, effectivement, on essaie de supporter ceux qui sont les plus
nécessiteux. Donc, c'est une devoir.
Ben, il en faut de toutes les manières, parce qu'aucun régime n'a un mandat d'avoir une population
on se souvient des émeutes de la faim en 2008.
Tout à fait. D'où le fait que, malgré la situation fiscale relativement difficile, parce qu'il faut bien dire une chose, que pendant la période du Covid, bon, l'Afrique a reçu, bon, je sais pas, 57 milliards de dollars, dont 23 sous forme de droits de tirage spéciaux. C'est une assistante qui vaut ce qu'elle vaut, mais toujours est-il que bon, ben, le stock de dette a quand même augmenté et la situation justement budgétaire n'est pas la plus simple non plus. Donc vous êtes dans un environnement où déjà votre situation budgétaire n'est pas la plus simple, mais derrière, il va falloir justement ajouter encore un stimulus pour pouvoir faire passer cette période, n'est-ce pas, de prix intense justement alimentaire.
Donc après les plans de relance, des subventions, le secteur financier, comment il se place là-dedans ?
Ben, le secteur financier, de point de vue bancaire, de toute façon, elle doit toujours apporter seulement sa part, n'est-ce pas, à l'économie, puisqu'elle est, elle est investie et c'est un peu son devoir, de certaine manière. Donc, ce qui est sûr, c'est que bon, l'inflation fait remonter les taux d'intérêt, en même temps renchérit le coût de l'argent. Je pense que les banques doivent continuer à faire ce qu'elles ont à faire, ce qui consiste seulement à promouvoir ce capital permanent dans l'économie, de façon aussi calibrée, autant que possible, justement, en partenariat avec ces États, là où il faut justement des actions un peu ciblées.
Donc, est-ce qu'il peut y avoir une tentation pour les banques de moins prêter et d'avoir une position assez conservatrice ?
Bah, écoutez, c'est souvent la réaction des banques dans un environnement où, n'est-ce pas, le futur est un peu incertain. Bon, vous avez une appétit
de risque. On prend des précautions.
On a une appétit de risque qui est un peu diminué, c'est sûr. Bon, toujours est-il que ça ne veut pas forcément dire que c'est tout de même leur métier de pouvoir justement prendre ce risque. Donc l'idée, c'est de trouver justement des situations dans lesquelles on peut toujours jouer ce rôle de pourvoyeur de capital, mais avec une méthode de dérisque, n'est-ce pas, qui permet justement de pouvoir toujours être présent dans l'économie en question.
Sur le continent africain, il y a des cas particuliers en ce moment. Oui. Le Mali, par exemple, sous le coup de sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La Guinée et le Burkina Faso, qui ont connu des coups d'État, qui sont eux aussi menacés de sanctions économiques. Le groupe Ecobank est présent dans ces trois pays. Est-ce que, selon vous, ces économies vont être encore plus impactées par la situation actuelle globale ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour votre banque, quelles conséquences ça peut avoir ? Commençons par la première.
Ouais, ben, je pense que ça a du sens de penser qu'elles vont peut-être impacter. Donc on a une situation où bon, on a des poussées inflationnistes et une croissance relativement faible. Bon, pour ceux qui ont des ressources qui peuvent vendre, bon, ça, tant mieux. Mais pour ceux qui en auront peut-être un peu moins, c'est sûr que l'environnement va être un peu difficile. D'autant plus que, bon, visiblement, elles sont soumises à des sanctions. Donc ça va de soi. Ben, maintenant, par rapport à Ecobank, bon, je veux dire, en tant que banque responsable, on respecte justement les consignes qui sont données par les États en essayant de trouver justement des moyens de faire au mieux avec justement les engagements que l'on a déjà sur place.
Donc vous restez dans ces pays et vous continuez à travailler avec vos clients
en respectant justement
et avec les autorités, quelles qu'elles soient.
En respectant les consignes qui sont données justement par
les consignes États. De la
CEDEAO. Tout à fait.
Autre pays en difficulté économique, mais pas seulement, la Centrafrique, qui vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. En tant qu'investisseur et que banquier, est-ce que vous voyez un intérêt dans cette innovation ou est-ce que vous êtes plutôt inquiet et vous dites ça rend les transactions plus opaques ? Comment vous voyez les choses ?
Le Bitcoin d'aujourd'hui, la véritable question, c'est de dire est-ce qu'elle peut remplir le rôle d'une monnaie, d'accord ? Et le rôle d'une monnaie, ça s'articule autour de trois points, d'accord ? Un véhicule pour thésauriser justement le capital, quoi, d'accord ? Un moyen d'échange et puis une unité de compte, voilà. Donc la question, c'est de dire, est-ce que le Bitcoin remplit justement tous ses devoirs ? Pour la première, effectivement, on sent que l'avènement de Bitcoin vient d'une certaine façon de la crainte que certains investisseurs auraient par rapport justement à la monnaie fiduciaire, tout simplement due à l'expansion monétaire qu'on a vue et peut-être justement la possible perte de valeur implicite qu'elle pourrait avoir.
Ça permet d'échapper au dollar.
Ou alors d'avoir une alternative par rapport au dollar, d'autant plus qu'elle promet justement d'avoir une expansion limitée. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre qu'elle joue un rôle de ce qu'on appelle de thésaurisation. D'accord ? Donc oui, le Bitcoin semble être un alternatif par rapport justement à des monnaies fiduciaires que l'on pense que les États peut-être ont utilisées un peu de façon assez large. Quoi. D'accord ? De par justement la prérogative que certaines de ces monnaies avaient comme étant monnaie de réserve. Maintenant, Est-ce que justement le Bitcoin peut être un moyen d'échange? C'est là où en fait il y a probablement des limitations, à la fois tout simplement par le fait que vous voyez tout de suite que dans la méthodologie aujourd'hui, et qui, bon, on dira, correspond à la technique actuelle, eh ben, il est difficile de traiter 24 000 transactions à la seconde comme feraient justement certains paiements de monnaie aujourd'hui, d'accord? Tout simplement parce que justement il y a une contrainte à la fois énergétique, technique et tout ce qu'on veut. Bon, la technologie, on peut faire confiance, peut-être on arrivera là, mais au moment où on parle aujourd'hui, en tant qu'outil de transaction, c'est difficile de pouvoir le penser que ce soit absolument un produit, de la monnaie en soi. Et quand on ramène cela à un pays comme la Centrafrique, où bon, je suppose que l'électricité est ce que c'est, n'est-ce pas, l'accès justement à l'Internet, ainsi de suite, on a du mal à comprendre en quoi justement cela peut vraiment servir de monnaie au sens justement de...
Donc c'est pour des opérations extérieures?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir...
Et sur l'opacité... Plus est,
juste pour finir là-dessus, hein, parce que dans le Bitcoin, et ça c'est au-delà de la Centrafrique. Là où, et je pense qu'on a peut-être besoin de clarté un peu rapidement, c'est que l'un des objets de la monnaie, c'est d'être capable de pouvoir l'utiliser comme outil de transmission économique. En d'autres termes, dépendant des, en fonction des différents niveaux de cycle, vous voulez pouvoir justement augmenter cette masse monétaire ou pouvoir la restreindre. Ce n'est pas faisable justement du point de vue du Bitcoin. Donc, la capacité justement de transmission monétaire est relativement limitée. Donc, ce qui veut dire que quelque part, n'est-ce pas, en tant qu'outil de gestion macroéconomique...
Il y a pas mal de points d'interrogation.
Donc,
est-ce que ça peut être un recours pour les transferts d'argent qui sont jugés parfois exorbitants?
Je ne saurais que dire. D'accord, ça, je ne saurais que dire. C'est pas, la réponse, je ne sais pas.
On dit souvent que voilà, les opérateurs, on va dire, profitent allègrement de la situation.
Bah, il est évident que, quelque part, je pense que pour les autorités, le manque de transparence que cela peut avoir, n'est-ce pas, peut penser qu'il pourrait y avoir des opérations illicites au travers de cela. Mais encore une fois, bon, on peut compter sur la technologie pour peut-être justement rendre les choses un peu plus transparentes, si effectivement il y avait des gestions qui allaient dans ce sens. Mais là-dessus, je ne saurais comment commenter vraiment.
Voilà qui nous mène à un autre sujet très important pour le secteur bancaire, la cybersécurité. Ouais. Les attaques sur les systèmes informatiques coûtent de plus en plus d'argent. Sidi Yansané, l'un de nos correspondants en Côte d'Ivoire, s'est rendu au Cyber Africa Forum cette semaine à Abidjan.
Comment mieux protéger l'industrie financière? Voilà le titre de l'un des tout premiers panels animés à l'ouverture du Cyber Africa Forum. Réunis à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan, les experts de la question s'alignent sur le même constat. La cybersécurité a trop longtemps été négligée dans les systèmes bancaires du continent. D'après les organisateurs du forum, plus de 85% des institutions financières africaines admettent avoir déjà été victimes de cyberattaques. Chez Orange Bank Africa, les investissements en protection digitale augmentent chaque année afin de répondre à trois impératifs, la prévention, la rapidité de réaction et le contrôle régulier. Jean-Louis Ménan-Kouamé est le directeur général de l'entreprise.
Dans les nouveaux services que nous lançons, ne pas intégrer la notion de sécurité de système d'information, ne pas anticiper une cyberattaque vis-à-vis d'une nouvelle activité, d'un nouveau produit, d'un nouveau service, c'est dangereux. Anticiper en faisant intervenir nos spécialistes de la sécurité des systèmes d'information pour que ces thématiques soient prises en compte en amont dans le lancement de nos produits et services.
D'après le service cyberdéfense d'Orange, les canaux financiers africains présentent une particularité par rapport au reste du monde, à savoir l'utilisation massive de paiements par téléphone, d'où l'urgence d'engager plus d'investissements dans la protection des données et dans la formation de techniciens compétents issus du continent où le marché de la cybersécurité représentait 2,5 milliards en dollars en 2020 et poursuit sa progression. Sidi Yansané, Abidjan, RFI.
Alain Conchou et Comanque étaient présents à ce forum. Quels nouveaux moyens vous mettez en place pour protéger vos systèmes et vos clients?
En tout cas, je peux vous assurer qu'on met beaucoup de moyens financiers et les investissements justement dans ce domaine sont accrus. En fait, voilà, on fait face à une situation, notamment en Afrique, comme disaient justement des personnes interviewées, c'est la technologie nous permet d'accélérer l'intégration financière, de fait, d'accord ? De permettre à des gens de revenus relativement bas de participer justement à l'activité économique via justement certains niveaux de bancarisation. Et ce, par justement les technologies dont on dispose, notamment par exemple le téléphone. Bon, il est évident que si vous êtes capable aujourd'hui de parler à cette technologie, de capturer ces individus, de les avoir justement comme clients potentiels, le canal au travers desquels ils deviennent clients, n'est-ce pas, forcément a besoin justement d'une certaine forme d'assurance et de sécurité. C'est le contre-coup justement.
Pour vous, il y a plus de risques sur le mobile money qu'il n'y en a sur les systèmes classiques des banques. Les banques classiques sont mieux protégées que les systèmes de mobile money?
Je ne saurais répondre de façon certaine par rapport à la parole, mais ce dont je suis sûr, c'est que les deux ont les mêmes challenges, qui sont justement celui de la sécurité, et que aujourd'hui, à l'intérieur de la banque, ça fait partie justement de domaines dans lesquels les investissements sont autant conséquents que la volonté justement de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre beaucoup plus de clients. Ça, ils vont de concert en tout cas.
Alain Conchou, ouais. Président du conseil d'administration d'EcoBank et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On est ensemble pour encore quelques minutes. On parle de l'actualité du groupe EcoBank.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI.
Alain Conchou, comment votre entreprise a-t-elle traversé la crise du Covid? Écoutons quelques mots de votre directeur général, Adé Ayeyemi, rencontré il y a quelques jours au Togo par notre correspondant Peter Dogbe.
This recovery has been long time coming.
Cette reprise a été longue à venir. En 2019, nous avons enregistré un profit avant impôt de 405 millions de dollars. L'année précédente, il se montait à 350 millions de dollars, donc il augmente. Nous avons eu un problème en 2020 à cause de la pandémie mondiale et malgré cela, la reprise de 2021 est en ligne avec nos attentes.
Alors, avant de parler des résultats de votre entreprise, une question Julien Clémenceau sur Adé Ayeyemi.
Oui, Adé Ayeyemi qui, à la fin de l'année, quittera son poste de directeur général. Est-ce que le processus de recrutement a commencé?
Oui.
Oui. Et donc, il partira à la fin de l'année, c'est ça?
A priori.
A priori.
A priori.
D'accord. A priori, c'est-à-dire on n'en est pas persuadé encore?
Non, de toute façon, je pense que... ce n'est pas de dire, bon, il s'en va. L'idée, c'est de dire, bon, on est dans une phase, n'est-ce pas, de changement de leadership, donc on le fera justement dans les conditions qui sont optimales pour la banque. Voilà,
D'accord.
C'est le bon sens qui demande justement une
quel
action.
Quel type de profil vous allez rechercher?
Je pense que le conseil, justement, aura tout intérêt à rechercher justement le meilleur profil, n'est-ce pas, qui correspondrait à ce d'où va la banque. On sort d'une période de consolidation, donc je pense qu'on a une partie de notre histoire qui est derrière nous, donc maintenant il faudrait aborder justement les prochains challenges, et avec une nouvelle approche, une nouvelle philosophie, et puis voilà, quoi. Donc on recherchera un profil qui ira dans ce sens-là.
Justement, parlons de cette période. Pour la première fois depuis 5 ans, EcoBank a versé des dividendes à ses actionnaires sur la base des résultats de 2021. Est-ce que cela veut dire que votre groupe a dépassé ses difficultés? On pense notamment à un énorme marché qu'est le Nigeria.
Oui, d'une certaine façon, quand même, on a bien stabilisé justement la banque depuis toute la problématique qu'on a eue dans les années 2015. Et je pense que, clairement, Adé Ayeyemi et son équipe, n'est-ce pas, a remis la banque sur une situation où on peut maintenant avoir une meilleure visibilité, n'est-ce pas, ne serait-ce que par rapport à la qualité justement de nos bilans et la compétitivité que l'on a dans certains types de services. Maintenant, pour ce qui concerne le Nigeria, évidemment... Ça a été justement un challenge pour le groupe et nous sommes assez contents de pouvoir dire qu'on a réussi à au moins la stabiliser. Et on a réussi justement à pouvoir, n'est-ce pas, lever un peu plus de capitaux qui sont assez importants pour la banque de manière générale.
Et ça, voilà. Ça veut dire que votre projet, votre objectif, il n'est pas atteint. Vous devez faire beaucoup mieux sur le Nigeria, c'est ça? C'est ce que vous nous dites?
En tout cas, on sait ce qu'on va faire et on sait justement...
Et c'est-à-dire concrètement
et on sait, sont pourtant, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut faire, n'est-ce pas, ce qui est de consolider la banque, n'est-ce pas, dans l'intérêt de se concentrer justement dans les endroits où on est relativement fort et continuer justement à être compétitif dans les nouveaux secteurs. Donc, en fait, il est clair que le Nigeria est stratégique pour nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, l'idée, c'est de dire comment on va le faire marcher.
Il y a d'autres marchés prioritaires en ce moment, d'autres pays où vous voulez...
Écoutez, le fait est que EcoBank a ceci comme avantage d'avoir été justement un précurseur, n'est-ce pas, en matière de services bancaires dans beaucoup de pays, et notamment justement en Afrique francophone. Et cela lui a conféré justement une place de pourvoyeur de capital permanent dans certains de ces pays, et un avantage, n'est-ce pas, de fait. Et que je suis lequel, effectivement, on a réussi à capitaliser, de faire justement les rendements que l'on a pu délivrer. Mais parfois, l'idée, c'est de dire...
même si vous êtes bien placé, il faut tout le temps continuer justement à croître. Quoi. Donc elle, tout le temps, en train de se remettre en question, même aux endroits où on est plus fort.
Malgré le contexte, malgré ce Covid, est-ce que vous avez constaté des défauts de paiement chez certains de vos clients, petits, moyens, gros ?
Pas autant que justement le choc de Covid pourrait l'insinuer. En fait, pour être très clair, même pas seulement au niveau de la banque, mais au niveau des États, vous voyez, je veux dire, si on demandait à n'importe qui, bon voilà ce que l'on va avoir, justement une période où on a une contraction de l'offre, la demande et une arrêt complète de commerce international et tout ce qu'on veut, tout le monde aurait dit, bon voilà, il y a des États qui vont faire défaut, il y a tout ce que... Bon, il y a une réponse qui est escalée, historique, et qui justement a permis, n'est-ce pas, de pouvoir absorber justement ces chocs. Du point de vue de la banque, nous, ce qu'on a fait en bon responsable, c'est que dans certains cas, on a discuté avec certains des débiteurs et trouver des situations dans lesquelles on pourrait leur donner un peu plus de temps, travailler avec les gouvernements pour pouvoir faire des prêts relais.
Donc, la banque a fait preuve de flexibilité ?
Ah ben, bien sûr. De toute façon, ça va dans le sens de ce que je pense qu'elle devrait le faire, et ça a été le cas. Donc, je pense que la crise a été difficile pour tout le monde, ça c'est sûr, mais on a fait ce qu'on devait faire justement en ce qui concerne...
Vous avez adapté vos services, plus de flexibilité.
Absolument.
Sur les frais bancaires.
On a baissé les frais bancaires. On a, dans certains cas, on a donné un peu plus de temps, n'est-ce pas, pour certaines sociétés de pouvoir faire face à leurs paiements, ce qui est tout à fait normal. Et ainsi de suite, justement, on est passé justement au travers de la crise. Aujourd'hui, bon, ben, on a eu avant évidemment ce choc dont on fait face. On a quand même justement une reprise qui était ce qu'elle a été.
Julien, la question centrale de la bancarisation des populations.
Oui, les banques se sont trouvées un peu mises de côté par les opérateurs télécoms ces dernières années.
Oui.
Les opérateurs télécoms dont le réseau est bien plus dense,
bien
qui
sûr.
Vont au contact de populations
bien
beaucoup
sûr.
Plus éloignées
bien sûr.
Des villes et des agences.
Bien sûr.
Comment vous voyez la suite pour les banques ? Est-ce qu'elles ont perdu la partie ?
Non, bien entendu que non. En fait... Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette dynamique est bienvenue. Et les opérateurs télécoms ont effectivement ce qu'on appelle un appât assez, un low-hanging fruit, dans le sens où vous avez un téléphone et vous pouvez justement faire un compte bancaire. Donc, de ce par ce fait, justement, que ce soit les transmissions, les paiements, et ainsi de suite, ça peut être fait de façon assez rapide. Bon, en même temps, il y a une limite, et c'est là peut-être la banque, un jour, là, un effet de levier à avoir par rapport à ça, c'est que... En tant que société de télécom, effectivement, vous pouvez les capturer, mais est-ce que vous en faites justement des clients bancaires ? Peut-être pas, parce que ça demande autre chose. Donc, il est clair qu'on a intérêt à s'entendre. Et en fait, on est partenaire avec des sociétés de télécom, d'accord, pour cela. Mais chacun a son métier. Nous, on a un métier de provider de services financiers, donc qui va au-delà de simplement que des paiements. Ça peut être aussi des prêts, il ne faut pas oublier. Que la société économique ne fait pas encore. Quoi. Ça peut être justement, n'est-ce pas, de l'épargne, n'est-ce pas ? Ça peut être justement de l'assurance. Donc, il y a tout un cocktail et tout un aménagement qui est propre justement au système bancaire qui va et qui devrait servir d'effet de levier
pour pouvoir
entrer aussi justement dans ce marché.
Vous n'êtes pas favorable, en tout cas, vous pensez que ce n'est pas forcément une bonne idée que les opérateurs demandent des licences bancaires en propre et deviennent des banques. C'est le cas dans de rares pays, c'est le cas... À Madagascar, où l'opérateur Telma a obtenu une licence bancaire ?
Vous savez, écoutez, les autorités décident de ce qui est optimal pour eux. Mais moi, tout ce que je regarde, c'est les faits. C'est qu'à partir du moment où vous devenez une banque, vous avez des ratios à respecter, n'est-ce pas ? Des ratios de capitaux, vous avez un certain nombre de coûts, en fait, hein, qui correspondent justement à votre statut de pourvoyeur de capital. Donc, c'est un métier différent. Maintenant, si... Ils pensent qu'en tant que société de télécom, on peut aussi devenir une banque au sens justement responsable du terme. Tant mieux. Mais tout ce que je vois, c'est que c'est des métiers différents avec justement des complémentarités du fait justement de la technologie. Donc, il y a certainement un espace dans lequel les deux pourraient s'entendre.
Pour le moment, d'un point de vue financier, du point de vue des bénéfices, les faits leur donnent plutôt raison.
Les faits leur donnent raison aux sociétés de télécom.
Oui.
Oui, effectivement, parce qu'elles ont une partie, justement, de ce service qui leur permet de pouvoir faire cet argent sans pour autant avoir le côté, justement, des contraintes, n'est-ce pas, de banque. Donc, ce qui veut dire que nous, par rapport, justement, à ça, en tant que banque, on a, justement, aussi un espace dans lequel on pourrait, n'est-ce pas, augmenter nos profitabilités en utilisant notre portefeuille de services financiers, justement, au service de ces mêmes clients.
Le rôle des banques auprès des ménages, auprès des entreprises, y compris les petites. Écoutez le président de la Fédération des PME du Bénin, Jean-Bernard Favy.
Nous voulons qu'on recrée une façon de pouvoir accompagner les entreprises. Ne restons pas dans le système classique de financement, mais allons au-delà, cherchons d'autres formes de financement. C'est vrai que la banque donne l'argent, l'entreprise se débrouille pour réaliser ses activités, pour venir rembourser. La banque ne s'intéresse pas souvent à comment l'entreprise fonctionne, comment l'entreprise se développe. Mais je pense que les banques doivent se comporter désormais comme des partenaires et à cet effet, doivent avoir un regard sur la gouvernance de l'entreprise, sur les activités, pour pouvoir devenir aussi des conseillers.
Propos recueillis par Alexis Bédu du service économie de RFI. Vous opinez du chef Alain Conchou. Vous avez un rôle de conseil aux entreprises pour développer le tissu économique et un regard sur la gouvernance aussi des entreprises.
Bon, écoutez. Les propos de monsieur sont parfaitement sensés, je veux dire, cela va de soi. En fait, bon, toute banque qui n'opère pas de cette manière verra justement les conséquences en matière justement de performance de la dette. Hein. Je veux dire, c'est évident que si vous prenez du risque, n'est-ce pas, dans une société, quelle que ce soit en capital, que ce soit justement de forme de la dette, vous devez comprendre justement quelle est la méthode avec laquelle
le
travaille.
Le patron des PME du Bénin semble dire que ça ne va pas assez loin. Les banques ne sont pas suffisamment auprès de nous.
Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une chose qui est assez claire par rapport à l'Afrique de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, vu là où nous sommes en termes de population, en termes de croissance, en termes justement de richesse, on a besoin plus que jamais, n'est-ce pas, toujours d'importer du capital, d'accord ? On en a besoin tout simplement pour pouvoir augmenter, n'est-ce pas, notre productivité, infrastructure, éducation, santé, on le connaît. Okay. Ceci étant, de par la nature dans où nous nous trouvons, je dis, on n'a pas assez d'épargne locale. Et les banques, dans ce domaine, devraient jouer un rôle un peu plus important. Les statistiques tout à l'heure le disent eux-mêmes. Donc, on peut dire une chose, c'est que les banques ne prêtent pas assez au secteur privé. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Ceci étant, on peut aussi dire qu'il y a des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. C'est peut-être aussi, encore une fois, l'appréciation du risque, ainsi de suite. Donc, les partenaires publics, comme ces banques, ont intérêt justement à trouver un système au travers desquels elles participent un peu plus, donc en fait, qu'elles prennent un peu plus de risques. Ce qui veut dire aussi qu'elles soient confortables, donc qu'il y ait une méthode justement de réduction de ce risque. Et donc, ce monsieur a parfaitement raison. La manière avec laquelle nous, on aura une croissance beaucoup plus soutenue, on sera un peu plus, moins dépendant justement des influx de capitaux, ainsi de se fera par le développement du tissu justement des PME, n'est-ce pas, et d'emplois qu'ils pourront créer. Donc, quand on prend ce risque, c'est la moindre des choses, c'est de savoir ce qui se passe. Non, maintenant, de là à intervenir justement au conseil et autre chose, ça c'est déjà un peu différent. Ça se passe beaucoup plus quand on est impliqué en capital, mais peut-être pas encore, enfin, en tout cas pas souvent justement du point de vue de la dette. Mais que la banque participe et qu'elle comprenne exactement ce que son client fait, ça va de soi.
Soutenons nos PME, c'est ce que disait Tidjane Thiam il y a quelques mois. Il était à votre place. Sur cette question des capitaux, Julien.
Sur cette question des capitaux et de mobilisation des capitaux, on constate que les places financières africaines ne fonctionnent pas. Si on prend la place financière d'Afrique centrale, il n'y a que la BMMAC, il n'y a que 5 compagnies cotées. Et visiblement, ça peut être amélioré. Quel regard vous avez, vous, sur les places financières africaines ?
Je pense que les places financières africaines...
Est-ce qu'elles jouent leur rôle ?
Écoutez, elles jouent le rôle qu'elles peuvent jouer, mais elles pourraient justement faire beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Mais ça va aussi justement avec la manière dont l'épargne est canalisée, n'est-ce pas ? La façon avec laquelle les fonds de pension sont régulés. Donc, il y a tout un écosystème qui va avec le support de ces marchés. Mais aussi la manière dont ces marchés, n'est-ce pas, sont institutionnalisés, sont décrits et dont l'accès justement est facilité. La réalité, c'est que, encore une fois, on en revient toujours, nos économies ont besoin, n'est-ce pas, de capitaux pour se développer, pour
donc
pouvoir investir.
Donc, d'investisseurs venus d'ailleurs ?
Oui, pas forcément, parce qu'il n'est pas complètement clair que, n'est-ce pas, l'épargne locale disponible, n'est-ce pas, a été justement complètement, n'est-ce pas,
optimisé.
Je veux dire, aujourd'hui, je pense que quand on regarde justement, enfin, de manière anecdotique, n'est-ce pas, le portefeuille d'investissement de tous ceux qui ont quelque chose un peu de disponibilité de capitaux, c'est l'immobilier. Pourquoi ? Parce que bon, ben, c'est une bonne protection pour l'inflation, c'est quelque chose qui peut toucher, c'est une rentabilité justement que l'on regarde, c'est que nos marchés demandent, n'est-ce pas, à se développer. Ça, c'est ce que nous, on constate. Et ce qui est une bonne chose, parce que de toute façon, ça permettrait aussi de varier, n'est-ce pas, la méthode avec laquelle les sociétés sont capables de lever du financement, qui aujourd'hui est en grande partie de la dette. D'accord. Donc, pouvoir lever du capital, n'est-ce pas, leur permet aussi pouvoir d'alléger un peu, n'est-ce pas, le coût de la dette qui va avec justement cette alternative. Donc,
aller sur les marchés financiers, c'est aussi faire preuve de transparence. Est-ce que ça, c'est pas un blocage pour certaines entreprises en Afrique ? La gouvernance, améliorer la gouvernance.
Je pense que c'est aux entreprises de pouvoir faire le calcul qui consiste à dire, voilà, aujourd'hui, je suis une entreprise à ce point dans mon cycle, je peux me développer ou je peux peut-être doubler, tripler ma taille si je lève plus de capitaux. Ceci étant, si je pars par le concours de la dette, ça peut être difficile et ça peut ne pas me donner les moyens d'absorber les cycles. J'aurais peut-être besoin justement de pouvoir lever du capital, n'est-ce pas ? Et en levant ce capital au jeu, je suis pratiquement sûr de pouvoir créer de la richesse pour ma société. Ceci étant, il faut faire la part des choses entre le niveau justement de transparence que l'on peut avoir, ce qui, à la limite, en tant que bon citoyen, ne devrait pas être un problème, et justement l'opportunité que cela vous donne de pouvoir justement avoir accès au marché pour pouvoir lever du capital.
Avec le but aussi de réduire les inégalités sur le continent, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Les super riches sont de plus en plus nombreux, avec une pression fiscale qui demeure souvent assez faible. Les États restent pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que banquier, en tant qu'investisseur ?
Écoutez, il faut un peu savoir comment on définit riche, n'est-ce pas ? Bon, ce qu'on reconnaît, c'est que de manière générale, le revenu par habitant est faible, il est relativement faible. Et à ce type de revenu, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir créer de l'épargne qui, justement, quelque part, n'est-ce pas, affecte la capacité des économies à pouvoir tirer justement dans leurs propres ressources des capitaux pour pouvoir se développer. Ça, c'est une donnée. Maintenant, de façon stratégique, dans ce type d'environnement, on sait qu'on a besoin au moins de quelques facteurs, d'accord ? D'avoir une éducation qui permet justement une croissance de notre productivité, c'est les gens de demain, d'autant plus qu'on a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas ? D'avoir une infrastructure qui permet aussi de réduire ce coût de capital, n'est-ce pas ? Et d'attirer justement de nouveaux investisseurs et des preneurs de risques. Personne ne va douter du fait que le potentiel économique, il est là. Le tout maintenant, c'est le process au travers desquels, n'est-ce pas, on essaye de pouvoir justement le faire ressortir et le dynamiser justement et rentrer justement dans une situation où de plus en plus le privé et le public, n'est-ce pas, œuvrent pour cette création de richesses et effectivement qui créera dans le temps un effet de ruissellement. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à inventer parce que ça a été prouvé par ailleurs dans d'autres pays. Ça devrait être pouvoir de le cas chez nous aussi. Quoi. Donc,
Alain Conchou, vous avez prononcé le mot-clé. Éducation. Écoutons un petit clip vidéo.
Moi, c'est Isaac. J'ai 13 ans. Je suis élève en 5e dans une école ENCO Éducation. Une école internationale africaine où je peux me dépasser, devenir autonome et parler anglais.
Do you like my drawing?
Une école qui me permettra d'obtenir le baccalauréat international pour rejoindre ensuite l'une des meilleures universités du monde. C'est mon but. C'est mon rêve. C'est pour ça que je donne tout. Je sais que je suis dans la meilleure équipe pour y arriver.
Alain Conchou, on vous voit sourire à l'écoute de ce clip. ENCO Éducation, c'est le bébé de votre frère Cyril. Vous êtes aussi impliqué. Quel est ce projet exactement ?
Écoutez, je pense que c'est un super projet. Donc, il est un peu aussi inspiré de l'historique familiale, parce que notre maman justement a une longue histoire justement d'école privée justement aussi au Cameroun. Mais je pense qu'il s'est su beaucoup plus dans la problématique actuelle de la jeunesse et de l'éducation en Afrique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, voilà, bon, dans le cas d'ENCO, c'est 4000 étudiants dans 9 pays.
Et, c'est de l'enseignement secondaire ?
Secondaire, et qui, justement, permet l'accès à ce qu'on appelle le baccalauréat international, qui est, justement, une référence mondiale, n'est-ce pas, en termes de qualité. Donc, quelque part, donner à ces jeunes, n'est-ce pas, un passeport ou alors un niveau d'éducation qui soit reconnu de manière un peu de manière standard et de manière globale, ce qui est une bonne chose en soi. D'autant plus que si on regarde sûrement à l'échelon de l'Afrique aujourd'hui et du point de vue de la problématique de l'éducation, bon, l'Afrique aujourd'hui fait ce qu'il faut, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que bon, 5% du PIB est consacré justement à l'éducation, 19% justement des budgets des gouvernements, ce qui est en ligne avec les recommandations. Sauf qu'en Afrique, on a plus de la moitié de la population qui a moins de 20 ans. Donc, ce qui veut dire
il en faut plus. C'est aux banques aussi d'investir davantage ?
Ce qui est sûr. C'est que les États, dont c'est la prérogative justement immédiate, ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc ce partnership public-privé a du sens, n'est-ce pas, pour pouvoir justement répondre aux attentes de notre population jeune.
Privé peut répondre à la masse.
Elle implique, peut-être pas à la masse, mais elle peut répondre justement parce que c'est privé aussi. Donc le privé peut jouer aussi son rôle. Et ce que je pense, n'est-ce pas, l'éducation, n'est-ce pas, fait dans ce sens. Quoi.
Éducation et santé.
Et la santé, bien entendu. Bon, la santé, ça aussi une dynamique qui est ce qu'elle est. Je veux dire, le privé dans la santé,
Bon. Donc vous, le capitalisme, vous pensez qu'il y a des, secteurs qui sont régaliens, en tout cas, qui vont aller... des prérogatives qui vont aux États où le privé ne peut difficilement trouver sa place ?
Pas qu'il peut difficilement trouver sa place, c'est simplement dû au quantum de l'investissement que cela peut représenter. C'est-à-dire que...
Donc il faut soulager un certain nombre de charges pour que le privé trouve son compte.
Ou alors le type de risque que cela comporte et le quantum que cela demande en termes d'argent, n'est-ce pas ? Et peut-être parfois trop important pour que des privés locaux puissent pouvoir prendre ça sur eux-mêmes. Je veux dire, c'est... Au stade où on en est aujourd'hui, l'État est présent, doit être présent dans certains pans de l'économie, tout simplement parce que c'est son rôle, c'est peut-être le seul qui puisse emprunter, justement. Je vous donne les chiffres. La dette totale, par exemple, africaine aujourd'hui, n'est-ce pas, en sud-saharienne, listée est de 600 milliards, d'accord ? Bon, 140 milliards locales, le reste, justement, externe, 95% de la dette est d'État. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Mais c'est aussi réminiscent du fait qu'à un certain moment donné, quand on a face à un État, ben, le premier emprunteur potentiel, c'est l'État, quoi, d'accord ? Et maintenant, le challenge, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on se développe, au fur et à mesure que les banques jouent leur rôle et que la croissance, justement, s'installe et la création de richesses, justement, se crée, que, justement, on passe aussi, justement, à un rôle beaucoup plus actif, justement, du secteur privé.
Les banques peuvent agir dans ces domaines-là, peut-être par de la philanthropie aussi.
Ah, bien sûr,
on pense à la lutte contre le paludisme, mais par exemple, le groupe EcoBank est impliqué, je crois.
Absolument, la philanthropie, toute forme. Sauf que la philanthropie, c'est volontaire et c'est peut-être aussi limité en soi. Les besoins sont importants. Regardez, en éducation, on a parlé de 40% du PIB. Je veux dire, c'est pas peu battre faire de la philanthropie. Donc, c'est sûr qu'on se doit, en tant que citoyen, de faire ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, dans toutes les formes que l'on puisse. Et ça, de ce point de vue, effectivement, cette initiative sur le PALU a énormément de sens. Et elle, ça va aussi dans le domaine de l'éducation et d'autres. On se doit de le faire. Ouais.
Toute dernière question, Alain de Conchou, spécifiquement camerounaise. Un conflit dans la zone anglophone du Cameroun aux conséquences dramatiques. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de votre pays ? Est-ce que sa stabilité est en jeu ?
Écoutez, un conflit n'est jamais souhaitable, ça c'est clair, et une population unie est l'idéal, ça. Parce qu'on a besoin de toutes les forces et on a besoin justement de tous les participants, à quel niveau que ce soit, quoi. Donc, c'est toujours un peu dommage, mais bon,
Votre sentiment, c'est que le gouvernement fait assez en termes de propositions de dialogue ? Là, actuellement, on voit que c'est rompu.
Honnêtement, je ne suis pas impliqué, enfin, je n'ai pas une connaissance assez bonne des faits, n'est-ce pas, dans ce qui se passe justement là sur cette problématique, quoi. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on en arrive à un environnement un peu plus fluide et que tout le monde vienne participer justement à ce dont on a tant besoin, c'est de développer justement le pays, quoi.
Une question plus personnelle sur la dynastie Nkondchou. Plusieurs de vos frères et sœurs sont dans la finance. Les histoires familiales, c'est un gage de réussite. Vos propres enfants, je crois, se prédestinent aussi à évoluer dans ce secteur.
Écoutez, tout ce que je peux dire, je ne les ai pas forcés, quoi. Donc, donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on est en proportion, on est relativement nombreux dans la finance. Bon. Pour ma part, je crois que c'est l'économie qui
vous
m'intéresse.
Vous ne conseillez pas vos enfants ou
disons qu'ils...
Vous parlez beaucoup avec votre famille, avec vos frères, vos soeurs.
Bien sûr. C'est difficile. Même si vous ne les conseillez pas, bon, ils entendent. Hein, donc, ils sont un peu émergés là-dedans. Mais ils font leur choix, de toute façon. Donc, il y a à faire pour tout le monde. Et ça n'a été forcé sur personne, quoi que ce soit. On en est arrivé là par le truchement de l'histoire, quoi.
Merci infiniment à vous, Alain Conchou, d'être passé parmi nous à RFI.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci à Guillaume Munier et à Thibaut Baduel pour la réalisation audio et vidéo de cette émission. Merci à Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Merci, Bruno.
À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. On parlera des difficultés actuelles de l'économie chinoise et de sa politique zéro Covid. Ça vous intéressera certainement, Alain Conchou. N'oubliez pas de commenter, de partager sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, notre compte RFI Éco. Merci à tous. Un nouveau journal dans quelques secondes. Portez-vous bien.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.